Quelle crème solaire choisir? Suite à diverses études qui dénoncent les effets néfastes de certaines substances dans les crèmes solaires, il devient difficile de savoir quel tube de crème choisir pour se protéger du soleil. Et à ce propos, est-ce que les crèmes solaires protègent réellement la peau? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Quelle crème solaire choisir et quel comportement adopter face au soleil? Ce sont deux questions auxquelles vous tentez de répondre ce matin, Frédéric Vollery.
Oui, cela fait déjà quelques années que l'on sait que certains filtres organiques anti-UV, que l'on appelle aussi filtres chimiques, sont susceptibles de provoquer des perturbations hormonales, notamment une baisse de la fertilité. Du coup, les dermatologues recommandaient d'utiliser des crèmes avec des filtres minéraux plutôt qu'avec ces filtres chimiques.
Alors je vous vois venir, vous allez nous dire maintenant que ce sont les crèmes avec des filtres minéraux qui posent problème.
Eh bien c'est du moins ce que nous vous disions en janvier suite à la publication d'une étude sur les nanoparticules présentes notamment dans les crèmes solaires, une étude dirigée par le professeur Jürg Chop de l'Université de Lausanne.
Frédéric, on entend beaucoup parler de nanoparticules, mais c'est quoi au juste une nanoparticule?
Eh bien, si vous prenez une règle graduée, vous regardez la taille d'un millimètre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là.
Oui, c'est petit.
La nanoparticule fait un millionième de ce millimètre. À titre de comparaison, une nanoparticule est à un ballon de football ce que le diamètre d'un ballon de football est à celui de la Terre. Donc on est vraiment dans le domaine de l'infiniment petit. Il existe des centaines de substances sous forme de nanoparticules et on en trouve dans toutes sortes de produits. Accrochez-vous, il y en a dans les emballages alimentaires pour améliorer la conservation, dans les aliments préparés comme les soupes ou le chocolat en poudre pour rehausser le goût ou encore améliorer l'onctuosité, dans le dentifrice pour blanchir la pâte, dans les fibres textiles pour les vertus anti-salissure et aussi dans les crèmes solaires pour stopper les rayons ultraviolets. Et c'est d'ailleurs sur ce produit-là que nous allons nous concentrer aujourd'hui.
Alors revenons à l'étude du professeur Jürg Chop. Quelles sont ses conclusions?
Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine du professeur Jürg Chop, ce n'est pas les nanoparticules, mais l'inflammation. Il a en fait découvert il y a 2 ans une protéine qui détecte le danger d'inflammation. Son équipe a testé toutes sortes de substances et puis un jour, ils se sont dit, tiens, si on testait l'effet des nanoparticules. Jürg Chop.
On a testé plusieurs particules, pas seulement les nanoparticules, d'autres comme l'amiante, et on a vu que il y a quelques nanoparticules qui peuvent déclencher ça, et d'autres par contre pas. Et notre étude n'est pas suffisamment profonde, si vous voulez, pour vraiment dire quelles des centaines de nanoparticules est activateurs et quelles ne sont pas. Mais on a vu qu'une des nanoparticules qui est particulièrement active, qui est aussi active comme l'amiante, c'est le dioxyde de titane.
Le dioxyde de titane qui, comme vous venez de l'entendre, provoque dans les poumons un effet inflammatoire similaire à celui de l'amiante.
Mais c'est pas très rassurant ce que vous nous dites là, c'est même assez alarmant.
Oui, vu que les nanoparticules de titane sont utilisées dans une multitude de produits alimentaires et cosmétiques, l'étude du professeur Chop a provoqué vraiment une déferlante médiatique et aussi de nombreuses critiques. C'est le cas de l'EMPA, le Laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche. Peter Vick est responsable du laboratoire matériaux et biologie, un laboratoire qui procède à toutes sortes de tests et d'études sur les nanoparticules. Il remet en question les conclusions de l'étude du professeur Jürg Chop.
Le plus grand risque, c'est dès qu'on va inhaler les particules via le poumon. Ça, c'est, je dirais, clair. Et puis là, on a pas mal de connaissances, de recherches que ça, c'est le cas. Mais c'est toujours aussi une question de la dose.
Donc si je me mets de la crème solaire qui contient des nanoparticules et que ensuite, je sors de l'eau, il y a évaporation de l'eau qui est sur mon corps et je l'inhale, est-ce que je prends un risque ou pas?
Je dirais pas qu'il y a beaucoup de particules qui veulent se délivrer sur le peau. La plupart de les particules sont soit dans l'eau, soit le soir dès que vous prenez une douche.
Comprenez par là que lors de son étude, le professeur Chop a utilisé des doses énorme. C'est un peu comme si vous inhaliez une cuillère de farine. La dose est tellement importante que ça va forcément provoquer une réaction inflammatoire, et ce, quelle que soit la substance.
Est-ce qu'il y a d'autres divergences entre ces deux scientifiques?
Oui, Peter Vick de l'EMPA remet également en question la comparaison entre la nanoparticule et la fibre d'amiante. Selon lui, c'est un peu comme si on comparait des pommes et des poireaux.
Ça, c'est deux matériaux complètement différents qu'on sait avec plusieures études que les particules sphériques comportent complètement différents dans les poumons que les fibres. Les particules sont évacuées par les macrophages, ça c'est une cellule qui nous aide de nettoyer les poumons. Et puis les fibres, ça c'est un cas différent parce que ces fibres sont dans autres trop longues, ça veut dire que ces macrophages ne peuvent pas éliminer ces fibres et ils restent dans le poumon et puis peut provoquer pendant longtemps une inflammation qui est devenue définitivement très très critique.
Vous l'avez compris, selon Peter Vick, les macrophages, des cellules donc du système immunitaire qui permettent le nettoyage des poumons, suffisent à évacuer les nanoparticules, des nanoparticules qui n'ont donc, selon lui, pas les mêmes effets que l'amiante.
Et qu'a répondu Jürg Chop à ses critiques?
Selon lui, peu importe la forme de la nanoparticule, le dioxyde de titane a provoqué une réaction inflammatoire et c'est cela qu'il faut prendre en compte.
Nous, on a pu mettre en évidence que ça déclenche l'inflammation, mais on ne sait pas encore si la quantité de nanoparticules qu'on trouve dans ces crèmes, qui peut évidemment s'accumuler pendant des années et des années, est suffisamment grande pour déclencher l'inflammation. Et au moment, il n'y a presque pas une crème solaire qui n'a pas ce titanium ou dioxyde de titane. Ça veut dire qu'on n'a presque pas le choix.
Est-ce que la peau est une barrière suffisante pour empêcher un effet inflammatoire des nanoparticules?
Je ne peux pas vous répondre là, parce que je n'ai pas fait les expériences moi-même. Je me base sur les rapports d'autres groupes. Et bien, je pense que c'est assez difficile de faire des expériences où vous mettez, par exemple, des nanoparticules sur la peau et vous êtes obligé de regarder ce qui arrive dans 10 ans. Hein.
Bon, on est tous des testeurs en temps réel, il faudra voir dans 10 ans.
C'est ça. Je pense que la meilleure expérience, c'est finalement nous, parce que les souris, elles ont un système un peu différent. Comme ça, on apprend très peu des expériences dans les souris.
Nous faisons donc office de cobayes. Frédéric, on a bien compris que ces deux scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux sur les effets des nanoparticules, de ce dioxyde de titane. Mais finalement, de quoi est-on certain?
Eh bien, de très peu de choses. On sait que l'on absorbe des nanoparticules et qu'il y en a dans notre corps. La preuve, c'est que des chirurgiens en ont par exemple trouvé dans les intestins des patients. Mais on ignore tout des effets des nanoparticules à long terme.
Quelle crème solaire choisir? Peut-on continuer à utiliser des crèmes solaires qui contiennent des nanoparticules? Quel comportement adopter face au soleil? Ce sont les questions que l'on se pose ce matin. Frédéric Vollery, nous avons entendu au début de cette demi-heure deux chercheurs avec des avis divergents sur l'effet des nanoparticules, mais tout de même une certitude.
Oui, cette certitude, c'est que le seul moyen pour connaître les effets réels des nanoparticules sur l'être humain, c'est d'attendre quelques années.
Oui, pas très rassurant de servir de cobaye. Est-ce que par principe de précaution, on ne devrait pas retirer les crèmes solaires qui contiennent des nanoparticules du marché?
Bien, c'est la question que j'ai posée à l'Office fédéral de la santé publique, la réponse de Carole Mellan, collaboratrice scientifique sur les cosmétiques à l'OFSP.
Alors c'est vrai que l'on soupçonne les nanoparticules libres de pouvoir être inhalées sous forme d'aérosol, mais ici il faut remettre de nouveau dans le contexte des crèmes solaires. Donc ce risque dans les crèmes solaires, il est vraiment pas important puisque la voie d'exposition, elle est totalement différente. Quand on applique une crème solaire, c'est sur la peau et les particules de ce produit donc ne peuvent pas être inhalées et donc n'atteignent pas les poumons.
Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là, même s'il n'y a pas beaucoup de recul sur les nanoparticules aujourd'hui?
Non.
Pas de risque donc, selon l'OFSP. Ce n'était pas l'avis de Jürg Chop qui disait tout à l'heure que l'on n'avait pas suffisamment de recul pour dire si la peau est une barrière suffisante ou non face aux nanoparticules. La position de l'OFSP est d'ailleurs pareille concernant les filtres chimiques ou les filtres organiques. Des études sur les rats ont démontré qu'ils étaient des perturbateurs endocriniens, mais comme rien n'a été prouvé scientifiquement sur l'homme, eh bien, il n'y a pas de danger selon l'OFSP.
Et nous qui nous réjouissons de pouvoir profiter du soleil ce printemps. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On jette notre tube de crème solaire et puis on s'expose sans aucune protection. Je provoque un peu, évidemment.
Alors c'est vrai qu'à force de mettre en garde contre les effets néfastes des substances que l'on trouve dans les crèmes solaires, c'est ce qu'on pourrait être tenté de faire. Mais non, ne faites surtout pas cela, ce serait bien plus dangereux pour votre santé.
Il faut faire une pesée des risques, c'est ça ?
Exactement. D'ailleurs, tous les spécialistes interviewés dans cette émission, même ceux d'ailleurs qui critiquent les nanoparticules, continuent à mettre de la crème solaire avec des nanoparticules. Le plus dangereux, c'est le soleil et les cancers de la peau qu'il provoque.
Oui, à ce propos, nous vous disions lundi dernier que la Suisse détenait le record européen des cancers de la peau.
Oui, triste record, mais qui démontre bien les dangers liés au rayonnement solaire, des dangers donc bien réels. Un point sur lequel insiste Bernard Noël, dermatologue au CHUV à Lausanne. Le soleil est dangereux et même la crème solaire ne suffit pas à vous en protéger. Certaines études ont même démontré que plus on mettait de crème solaire, plus il y avait de cancers de la peau. Les explications de Bernard Noël.
En fait, plus vous mettez de crème solaire, plus vous vous exposez au soleil, parce que vous n'avez pas de coup de soleil, et plus vous risquez d'avoir des cancers de la peau. Donc c'est quand même intéressant, parce que le simple fait de mettre une crème solaire ne vous protège pas, disons, contre les effets cancérogènes des ultraviolets. Mettre trop de crème solaire vous protège peut-être contre les coups de soleil, mais le coup de soleil, c'est quand même une sonnette d'alarme, et si vous enlevez la sonnette d'alarme, vous risquez d'avoir des cancers de la peau. Donc voilà, il faut être très modéré lorsque l'on va au soleil. On est faussement rassuré par l'application de crème solaire.
Il faut donc un changement de comportement face au soleil, un changement qui pourrait être engendré par la solution suivante.
Certains spécialistes préconisent même que l'on mette sur les emballages des crèmes solaires des avertissements en disant aux consommateurs que plus vous vous exposez au soleil, plus vous risquez un cancer de la peau.
Comme pour les cigarettes, en fait.
Comme pour les cigarettes, absolument.
Et ce serait une bonne idée, selon vous ? Ça ferait peut-être prendre conscience ?
Il ne faut pas croire que parce que l'on met une crème solaire et que l'on s'expose comme ça au soleil et qu'on est protégé contre les coups de soleil, qu'on n'a pas de risque. Je pense qu'il faudrait faire des avertissements comme ça. Aujourd'hui, je crois que le marketing est faussement rassurant. On vous dit que vous pouvez bronzer sans risque. C'est faux. Il n'y a pas de bronzage sans risque.
Pas de bronzage sans risque, on l'a bien compris. Il faut donc limiter l'exposition de la peau au soleil.
Oui, en se tenant au maximum à l'ombre, en choisissant des vêtements le plus couvrant possible et en mettant de la crème solaire sur les parties du corps qui ne sont pas protégées.
Et concernant le choix de la crème solaire, après tout ce qu'on vient d'entendre, comment la choisit-on, Frédéric ?
Alors, l'idéal, ce serait de trouver une crème sans filtre chimique et sans nanoparticules. Autrement dit, une crème qui ne contienne que des filtres minéraux sous forme non-nano.
Et ça existe, ça ? Vous avez trouvé un produit de ce type ?
Oui, mais très sincèrement, c'était le parcours du combattant. Les fabricants ont certes l'obligation d'inscrire la liste des composants sur le produit, mais ils n'ont aucune obligation concernant la quantité et la taille de la substance. Autrement dit, si je vois l'inscription « dioxyde de titane » ou son appellation pour les produits cosmétiques, qui est CI77891, eh bien, cela ne donne que le nom de la substance. Impossible de connaître sa quantité, impossible de savoir avec certitude si cette substance est sous forme nano ou pas. Nous avons donc contacté 17 marques, 14 nous ont répondu. Sur ces 14 marques, 13 proposent des produits contenant du dioxyde de titane sous forme nano ou des filtres chimiques ou un mélange des deux. Certaines marques précisent que leurs nanoparticules sont encapsulées, je m'explique. Donc elles sont en fait encapsulées dans une perle de silice de quelques microns pour éviter la dispersion des nanoparticules dans la peau. Mais renseignements pris auprès d'un adjoint du chimiste cantonal Genevois, il n'y a aucune certitude quant à l'efficacité de cet encapsulage.
Mais Frédéric, pourquoi les fabricants mettent-ils ce minéral sous forme de nano ?
Eh bien, pour rendre la crème plus transparente, sinon, cela ferait une espèce de couche pâteuse blanche.
Un peu comme ces alpinistes des années 80 qui élevaient le visage quasi emplâtré et tout blanc.
Oui, exactement. Ils mettaient en fait de la pâte de zinc pure, comme celle que l'on met d'ailleurs sur les fesses des bébés. Si vous mettez cette crème en couche épaisse, elle vous protège efficacement du soleil.
Oui, on est protégé, mais l'inconvénient, c'est qu'on a l'air d'un clown. Mais Frédéric, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez trouvé une crème sans filtre chimique et sans nanoparticules.
Oui, nous n'en avons trouvé qu'une seule. Il s'agit de la crème solaire de la marque française Kibio, qui appartient au groupe Clarins. Karine Delorme, attachée de presse de Kibio en Suisse romande.
On bénéficie du label Cosme Bio et EcoCert. Du coup, on est tenu de respecter les règles. La charte Cosme Bio interdit les nanoparticules dans tous les produits cosmétiques, en fait. Si on voulait sortir notre ligne solaire, on était obligé de s'y plier. Et donc, nous avons réussi à le faire grâce à nos écrans minéraux.
Donc ces trois crèmes solaires Kibio ont un indice de 20 et de 30, ce qui signifie qu'ils bloquent 95% des rayons UV. Petit bémol toutefois concernant le prix, le flacon de 100 ml que voici coûte 27 francs.
Oui. Frédéric, vous et nos recherchistes avez beaucoup sué pour obtenir des réponses claires des fabricants et pour trouver un produit sans nanoparticules, mais reste que c'est possible.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que recommandait le professeur Jörg Chop, qui comptait d'ailleurs poursuivre ses recherches, une séquence que nous diffusons maintenant pour lui rendre hommage. Jörg Chop est en effet décédé lors d'une promenade en montagne, une semaine après l'interview que j'ai réalisée avec lui. Sa famille souhaite que son travail et ses recherches se poursuivent. Voici donc ce que Jörg Chop comptait faire suite à la découverte de l'effet inflammatoire de certaines nanoparticules.
Je dirais, si moi je pouvais décider, je ferais la chose suivante. Je testerais tous ces nanoparticules qui sont disponibles sur notre test pro-inflammatoire ou inflammatoire. Et je prendrais ceux qui ne sont pas toxiques. Même si on a testé que 5, on a trouvé 2 qui ne sont pas toxiques. Après, j'éliminerais tous ceux qui sont en théorie pro-inflammatoires. Et je travaillerai avec les autres, les 50%, les 30% qui restent. Et deuxième chose, c'est que j'utilise pas les nanoparticules là où c'est pas nécessaire. Prenons l'exemple des dentifrices. Là, j'ai dû apprendre qu'on met les nanoparticules là-dedans seulement pour rendre les dentifrices blanches. Et l'aspect blanche fait que le consommateur, vous et moi, on a l'impression que ça nettoie mieux. Mais si on enlève, c'est exactement les mêmes efficacités. Et là, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et aussi long qu'on ne sait pas les conséquences de ces nanoparticules, je prendrai, comme vous dites, la voie de précaution et j'enlèverai ces nanoparticules là où ce n'est pas nécessaire.
Ça coûterait combien de faire un tel test sur différents types de nanoparticules?
Bon, ça, je ne peux pas vous dire parce que...
C'est à la portée
au monde, mais un des seuls groupes qui arrive à faire le test au moment, c'est notre groupe de recherche. Mais s'il y a un besoin, on pourrait introduire ce test pour tester des milliers de nanoparticules. C'est seulement question d'organisation.
Vous allez le faire?
Bon, au moment, il n'y a qu'une compagnie japonaise qui m'a contacté. On a testé pour eux. Mais si c'est vraiment le besoin, on va le faire, évidemment. Ce n'est pas un grand travail.
Supprimer les nanoparticules là où elles ne sont pas nécessaires, un conseil que l'on retiendra. En attendant, si on veut éviter d'acheter des produits avec nanoparticules, alors comment fait-on?
Bien, pour l'instant, le seul moyen de le savoir, c'est de contacter le fabricant, ce qui est plutôt fastidieux et compliqué, mais il y a une lueur d'espoir. À partir du 11 janvier 2013, tous les fabricants commercialisant des produits cosmétiques au sein de l'Union européenne devront indiquer dans la liste des composants le mot « nano » entre parenthèses, à côté de la substance, lorsqu'elle est sous forme de nanoparticules. Donc à voir si la Suisse suivra ou pas.
Et peut-être que se concrétisera le vœu de Jörg Chop, décédé récemment. Notre sympathie va bien sûr à sa famille. Dossier de Frédéric Vollery avec le concours de nos recherchistes Pierre Hickmer et Bastien Fonvis.